Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Le grand oral des grandes gueules.
C'est le philosophe Bernard-Henri Lévy qui est avec nous, philosophe, écrivain, auteur de Sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Bonjour, monsieur Bernard-Henri Lévy.
Bonjour, bonjour.
L'actualité, c'est ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui est entré en vigueur cette nuit après 10 jours de combat. Qui a gagné ce conflit entre Israël et le Hamas? Alors le Hamas dit, on a gagné. Il y a un vainqueur?
D'abord, c'est pas cesser le feu, c'est juste le Hamas qui a déclenché cette guerre le 10 mai dernier, sans aucune raison autre que la haine d'Israël. Et je sais pas, ils sont peut-être à court de roquettes, et donc ils ont arrêté de bombarder Israël. C'est ça la réalité. Un cesser le feu, c'est autre chose. Hein. C'est le Hamas a décidé d'arrêter de bombarder Israël. Voilà, c'est ça.
Et c'est terminé?
J'en sais rien, je l'espère, parce que cette histoire est quand même ahurissante, navrante pour les civils israéliens, d'abord, qui sont bombardés par des terroristes comme aucune ville au monde ne l'est. J'ai jamais vu ça ailleurs, franchement. Est-ce qu'on peut imaginer Paris ou n'importe quelle ville européenne qui reçoit des milliers de missiles, tout d'un coup, comme ça, sans aucune raison, sans aucun but de guerre, sans aucune querelle? C'est quoi la querelle entre Gaza et Israël? Non mais sérieusement, est-ce qu'il y a une querelle de frontières? Est-ce qu'il y a une querelle...
On a parlé d'une querelle foncière, notamment à Jérusalem. Et ça serait parti de là.
Non. À Jérusalem, il y a 3 familles qui contestaient des titres de propriété anciens détenus par des familles juives. Ça allait être jugé par la Cour suprême, dont on sait que c'est une vraie Cour suprême, qui a une magnifique jurisprudence, qui a souvent donné raison aux Palestiniens. Donc c'était ça l'histoire. On déclenche pas 5000 obus sur des populations civiles parce qu'il y a un conflit autour de quelques maisons à Kedjarad. Ça n'a pas de sens.
On a surtout compté des victimes du côté palestinien, notamment des enfants.
Oui, et on a compté des victimes du côté israélien aussi.
Beaucoup moins.
Ça veut dire, bien sûr, beaucoup moins.
Sans féliciter, oui, bien sûr.
Attendez, je connais un peu, je connais bien Israël. J'ai des amis, à la fois chez les dans la société israélienne, des mères de famille, etc. Et puis, j'ai des amis militaires. Je peux vous dire que chaque victime civile palestinienne, c'est un crève-cœur pour l'armée israélienne. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous avez des commandants du Hamas, quand vous avez des rampes de lancement de missiles, qu'ils mettent exprès dans un immeuble civil, qu'ils mettent exprès à la porte d'un hôpital, c'est vrai que c'est un cas de conscience terrible. Donc les Israéliens préviennent, une heure avant, parfois davantage. Le malheur, c'est que quand ils préviennent, hélas, ce sont les assassins, les terroristes, les gens du Hamas qui se tirent. Et c'est souvent, malheureusement, les civils qui sont en vérité pris en otage par le Hamas qui demeurent. Et c'est terrible, bien sûr. Je le sais bien. Mais encore une fois, quelle est la solution? Quelle est... Non, mais vraiment, je demande ça à vos auditeurs, qu'ils réfléchissent tous en leur âme et conscience. Si ça arrivait en France, en Angleterre, en Espagne, n'importe, quelle serait la réaction d'un gouvernement démocratique face à une histoire pareille? Ces milliers d'obus qui d'un seul coup se déclenchent et tombent sur vos maisons.
Et vous avez l'impression que les médias et la communauté internationale ont encore regardé ce qui s'était passé de manière hémiplégique d'un seul regard, selon vous ou
pas? Les médias français notamment?
Souvent, oui, pas toujours. J'aime pas dire les médias parce qu'il y a les deux. Mais bien sûr qu'il y a eu une tendance.
Le méchant, on savait où il était, c'était Israël.
Il y avait cette tendance-là à voir. Alors, par ailleurs, c'est vrai que les Palestiniens sont victimes. Mais ils sont victimes de quoi? Du Hamas, qui, tous les 3 ans, tous les 4 ans, encore une fois, les prend en otage, décide délibérément de sacrifier quelques centaines de martyrs. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui ont déclenché cette opération, cette guerre, cette folie.
Est-ce que dans le cynisme aussi de ce conflit, ça n'arrange pas l'actuel Premier ministre israélien? Ça lui permet, alors qu'en ce moment il n'est pas dans une bonne passe politique, de resserrer les rangs derrière lui? Je peux parler de Benjamin Netanyahou. Okay.
Benjamin Netanyahou, il est ce qu'il est. C'est pas lui qui a déclenché cette guerre. C'est pas lui qui a appuyé sur le bouton.
Oui, mais les roquettes du Hamas, l'argent, on sait par où il transite. Il transite par l'aéroport Ben Gurion. On sait que cet argent est donné au Hamas.
Ça, je crois que c'est des racontars de réseaux sociaux.
Voilà, comment il arrive l'argent au Hamas alors?
Je ne sais pas.
Comment peut-on avoir autant de roquettes?
Mais ça arrive de différentes. Vous savez, contrairement à ce que dit là aussi la propagande, les gens disent blocus, blocus, blocus. Est-ce que vous savez qu'il y a entre 800 et 1000 camions par jour qui passent la frontière entre Israël et la bande de Gaza? Ce qui est moins vrai d'ailleurs entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il y a des centaines de camions qui passent tous les jours, plein de vivres. Il y a des bateaux qui accostent.
Et plein de roquettes aussi, j'imagine, puisque ces roquettes arrivent.
Il y a des tunnels. Je ne sais pas comment les gens font des roquettes. Je n'en sais rien. Mais j'ai lu en effet sur des réseaux sociaux des théories complotistes sur l'argent qui arrive à l'aéroport Ben Gurion avec la complicité. Les Israéliens, ils ont, comme tous les peuples, ils ont des défauts. L'idée qu'ils accueillent des valises d'argent qui vont servir à fabriquer des missiles qui vont tuer leur population civile, oubliez. Ça, c'est une infamie, et c'est une absurdité.
Question, Barbara Lefebvre, Mourad Boudjelal, ouais. Maxime Yedo.
Moi, j'ai plusieurs choses.
On peut passer sur autre chose. Hein.
Non. C'est important, le conflit israélo-palestinien, puisqu'il est, il est aussi quelque part depuis des années à nos portes.
C'est important, sauf que moi, vous avez sous les yeux, je m'en fous de la pub, mais vous avez un livre que j'ai écrit en partie pour montrer à mes contemporains qu'il n'y avait pas que les 250 ou 300 victimes palestiniennes au monde.
Exact. Vous
voyez ?
Non, il y en a un peu plus quand même.
400, 500, oui d'accord. Mais les guerres dont je parle dans ce livre, encore une fois, je m'en fous de la publicité, mais je vous dis, je parle dans ce livre de guerres qui font des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parfois des millions de morts.
Et on ne manifeste pas dans les rues de Paris pour ces guerres.
On ne manifeste pas pour eux, et ils sont littéralement occultés.
Mais pourquoi ?
Parce que les gens ne s'intéressent, en effet, comme aujourd'hui, comme vous, ils ne s'intéressent qu'au conflit entre...
C'était l'actualité.
Quel
est le conflit oublié? Quel est pour vous
les chrétiens du Nigeria. Les chrétiens du Nigeria, vous avez encore cette nuit 25 ou 30 chrétiens du Nigeria qui ont été massacrés, qui ont été des femmes enceintes qui ont été éventrées. Une femme comme celle dont je raconte l'histoire, qui a été machetée petit bout par petit bouge, parce qu'ils s'y sont tous mis, le groupe d'islamistes, l'un a coupé les doigts, l'autre a coupé au poignet, et ainsi de suite. Voilà un conflit. Par exemple, l'Ukraine, c'est pas loin, c'est tout près de chez nous. J'y ai passé aussi du temps. Je raconte ça en détail. Vous avez une guerre de position, une espèce de petit Verdun. Personne n'en parle. Alors, je sais que l'actualité, c'est Gaza. Mais l'actualité, messieurs, elle est ce que vous voulez. Décidez demain.
Cette guerre, elle est à nos portes.
Elle est à nos portes.
Laquelle? L'Ukraine? Non, le conflit israélo-palestinien.
Mais attendez,
il a été importé en France, vous ne pouvez pas le nier. Donc c'est pour ça qu'on en parle.
Bernard-Henri Lévy.
Attendez, l'Ukraine est. S'il y a bien une guerre aujourd'hui qui est à nos portes, parce qu'elle est en Europe,
c'est
bien. À nos
portes, c'était une métaphore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien. Je suis désolé, moi je m'appelle Mourad Boudjelal. J'ai grandi quelque part jusqu'à l'âge de 13-14 ans avec ce conflit et avec l'image que de quasiment, entre guillemets, de la haine du juif. Il a fallu que, à l'âge adulte, je comprendre que les choses étaient plus compliquées que ça, beaucoup plus compliquées que ce qu'on m'avait appris, mais il y a plein aujourd'hui de jeunes issus de l'immigration qui l'ont pas compris. Bon. Alors, je vais pas défendre l'État d'Israël, alors, je vais simplement défendre la paix. Vous avez dit, il faut que la France se place du côté d'Israël. Je suis pas d'accord avec vous. La France doit se placer du côté de la paix. Et Benjamin Netanyahou a dit, nous avons les moyens d'éradiquer le Hamas. Ça me dérangerait pas. Et j'ai envie, la question
qu'il a fait.
Moi, je vous dis, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas parce que c'est ce qui pourrait arriver de pire. Moi, j'ai envie de vous poser une question simple. Aujourd'hui, le pays dominant dans cette zone du monde, c'est quand même Israël. Donc, une fois que le Hamas est éradiqué, comment on en sort? Comment est-ce que Israël en sort? Comment est-ce que le pays dominant propose une situation qui permette aux deux populations de vivre en paix?
Ma réponse elle est la même depuis 40 ans, même depuis 50 ans, depuis mon premier voyage en Israël et mon premier voyage en Cisjordanie en 1967. C'est deux États. Mais
oui, mais il n'y en a pas une qui va faire 3 mètres
carrés. Alors allez-y, allez-y.
Attendez, mais comment 3 mètres carrés?
Oui, allez-y, Bernard-Henri Lévy.
La Cisjordanie.
Bernard-Henri Lévy. Grand.
Mais n'importe quelle organisation terroriste n'a pas droit à un État. Ça ne veut rien dire. Attendez, on ne fait pas un État. On ne fait pas un État avec des gens dont le programme est d'annihiler l'État voisin. On ne fait pas un État avec des gens qui sont affiliés. Non, moi je parle pas d'éradiquer. Je sais pas. Moi je c'est pas mon langage. Moi je ne suis pas pour éradiquer qui que ce soit. Je suis pour que les Palestiniens soient libérés des terroristes qui les tiennent en otage, qui les empêchent de vivre, qui les tiennent sous la botte, qui les exécutent lorsqu'ils sont soupçonnés d'être à la solde ou d'être des collaborateurs d'Israël ou des collaborateurs du Fatah. C'est ça la réalité
de
Gaza.
Donc, il n'y a pas de débat sur le Hamas. On est tous d'accord.
Voilà. Alors le jour,
le Hamas ne représente pas l'intégralité des Palestiniens, comme Benjamin Netanyahu et sa
solution, c'est un État.
Ne représente pas l'intégralité des Israéliens.
Donc là. Oui, à une différence près, c'est que en Israël, vous n'avez pas un parti terroriste islamiste allié à des grandes organisations islamistes internationales.
Alors, on passe à autre chose.
Oui, alors.
Barbara Lefebvre.
Donc, concernant votre livre, dans la première partie du livre, la partie ce que je crois, la deuxième partie, c'est des pastilles, enfin des textes sur les conflits, effectivement les conflits oubliés. Je ne sais pas si vous êtes allé en République démocratique du Congo à l'est, au Kivu, mais le Kivu depuis 2004 aussi, hein, un pays des dizaines de milliers de civils assassinés dont on ne parle pas, pour rebondir sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Mais alors ce qui est intéressant dans la première partie de votre livre, c'est que j'ai l'impression que vous faites un petit peu de mea culpa sur un certain nombre de grandes causes que vous avez défendues, l'Europe, le mondialisme. Et vous revenez même sur l'idée que finalement, le modèle national, c'est peut-être quelque chose que, à un moment donné, oui, vous avez, vous le dites, j'ai conspué la France des terroirs, des bérets, des bourrés et des bignous. Et vous avez l'air un petit peu de vous repentir.
Non, non.
Si, si, un petit peu quand même. Et je me dis, encore un petit effort, Bernard-Henri Lévy, et peut-être que vous allez rejoindre le camp souverainiste qui donne enfin à la France son caractère, qui ne serait pas un caractère provincialiste, comme vous le dites. Si, si, moi j'ai l'impression quand même que vous revenez sur votre côté cosmopolite, antinational, européen,
BA. Non, c'est vrai que j'aime la France, c'est vrai que je la défends, contrairement aux souverainistes, moi j'en défends les couleurs, et j'en défends la langue chaque fois que je le peux dans des contrées lointaines. Voilà. Et parmi les beaux moments de ma vie que j'évoque dans cette espèce d'ébauche d'autobiographie, parmi les grands moments de ma vie, public en tout cas, c'est quand j'ai fait acclamer le drapeau français face à des foules arabes, face à des foules ukrainiennes, dans des lieux perdus de Somalie, etc. Mais la différence avec les souverainistes majeurs, c'est que pour moi la France c'est une idée universelle, et c'est une idée qui ne prend toute sa force et sa puissance que quand elle se fait bon ménage et quand elle est le moteur de l'Europe.
C'est pas une géographie.
Plus que jamais.
La France.
C'est une.
C'est pas une terre, c'est
autant,
pas un
terroir. Autant qu'une catégorie géographique, pour moi, c'est une idée spirituelle.
Oui, bien sûr
je crois, comme le général de Gaulle. Vous savez, Là, il faut aller très vite parce qu'on est à la radio et que chaque minute compte. Mais grande différence entre De Gaulle et Pétain. Pour Pétain, la France, c'est une terre. Et il ne conçoit même pas, d'ailleurs, que l'on puisse défendre la France quand on part à Londres. Pour De Gaulle, la France, c'est une idée. Et c'est une idée qui continue de vivre, même lorsque la terre est souillée, même lorsqu'elle est occupée.
Mais De Gaulle veut libérer une terre, il ne veut pas juste libérer une idée.
Il veut libérer les deux. Et vous savez, lorsque les armées françaises libres, histoire que je connais bien, dont je parle dans ce livre, puisque mon père en était l'un des héros, lorsque les armées françaises libres libèrent Monte Cassino, vous avez là, comme disent les souverainistes, des Français de souche, mais vous avez des tabors marocains, vous avez des volontaires polonais. Et vous avez ce que l'on appelait à l'époque, comme mon papa,
mon grand-père était espagnol,
des juifs indigènes. Oui, on les appelait des juifs indigènes, c'est-à-dire des Français qui avaient été déchus de leur nationalité par les lois infâmes de Vichy. Donc, la libération de Monte Cassino, qui ouvre la voie de la victoire aux Alliés, elle a été le fait de gens qui avaient la France dans la tête et pas sous leurs pieds. Donc la France, elle est grande. C'est la phrase de Malraux. La France est grande quand elle est grande pour tous les hommes.
La France, elle n'est pas très grande à l'international et il faudrait peut-être que déjà elle soit grande dans ses
frontières. Oui, mais justement, là, le drapeau français... On le brandit là pour la prochaine élection présidentielle, Bernard-Henri Lévy. Les patriotes sont de retour et ils veulent faire gagner la France. Et on voit qu'il brandit le drapeau français, Bernard-Henri Lévy.
Le drapeau français appartient à tout le monde. Et il appartient aussi à ceux pour qui la France est une idée. Il appartient à tout le monde. Et il m'appartient aussi. Sauf que moi, le drapeau français, j'aime le voir flotter sur la place Tahrir de Benghazi. J'aime le voir flotter sur la place Maïdan. En Ukraine.
Il va avoir des mailles sur la carte.
À Benghazi, il flotte plus vraiment, hein.
Oui, mais alors,
il a flotté, et c'était un, s'il vous plaît, en même temps.
Il y a un danger aujourd'hui pour le pays qui est évident, que tout le monde voit arriver. Anne Masseran, quoi.
Oui, il y a.
Marine Le Pen, c'est un danger. Ou c'est le retour de la France?
D'abord, je n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse être élue.
Mais c'est pas
possible. Elle est tellement nulle et elle déteste. Alors elle, voilà quelqu'un qui déteste la France.
Ah bon?
Vous savez.
Ah bon?
Il y a un test pour, si on aime la France ou si on n'aime pas la France. Quand la France est engagée dans un conflit, quand la France envoie ses soldats sur un front, est-ce qu'on les soutient ou est-ce qu'on les soutient pas? Marine Le Pen, quand des soldats français étaient engagés en Libye, par exemple, ou au Mali, et son père, n'en parlons pas, elle prend le parti de l'ennemi, généralement. Ou en tout cas, elle fait la fine bouche. Et elle se désolidarise de son pays. Donc ça, c'est un vrai test, très important.
C'est un message que vous envoyez aux militaires qui ont signé la tribune ?
Mais je crois qu'ils sont une minorité. Les militaires qui ont signé la tribune, ils ne représentent pas cette belle institution républicaine qu'est l'armée française. Ce détail ne vous a pas échappé. Beaucoup de retraités et désavoués dans cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours où vous aviez tous les chefs de l'armée française autour du président Macron devant l'Arc de Triomphe. C'était la meilleure réponse qui soit à cette poignée, à ce carteron d'officiers à la retraite qui en effet préparaient
Et les policiers qui étaient devant l'Assemblée nationale pour demander le retour de l'autorité, qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que les policiers sont traités de manière insupportable dans les manifestations depuis maintenant 2 ans. Les manifestants, et hélas, c'est pas seulement les Black Blocs et c'est pas seulement les voyous de banlieue. Quand on leur dit suicidez-vous, quand on les roue de coups ou quand on les lynche, il y a là quelque chose d'insoutenable pour eux, pour leur famille et pour l'idée républicaine dont ils sont l'un des piliers. Donc je comprends leur colère, je comprends leur désarroi et je comprends leur demande de soutien, bien sûr.
Alors, sur quoi va se jouer la prochaine élection présidentielle, là, selon vous, là, sur comment on a géré le Covid, comment on est sorti du Covid, sur la situation économique.
Vous avez agacé ces périodes d'ailleurs de pandémie, ces restrictions.
Ce qui m'a agacé, c'est l'hypocrisie. Et c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs ce bouquin. Ce qui m'a agacé, c'est qu'on nous raconte que c'est en restant chez soi qu'on est solidaire des autres. Ce qui m'a agacé, c'est qu'à 8h, on applaudisse les médecins et qu'à 8h10, on dénonce le voisin parce qu'il est allé 2 fois à la supérette ou qu'il a organisé une réunion interdite de 4 personnes au pied de son immeuble. Ce qui m'a agacé, c'est la tartufferie. J'aime pas l'hypocrisie. Voilà. J'aime pas que l'égoïsme se maquille aux couleurs de la bonté ou de l'altruisme. Ça m'insupporte.
Mais il y a eu aussi des gestes de solidarité. En ce moment même, dans les centres de vaccination, vous avez beaucoup de bénévoles, des infirmières qui sont mobilisées, des pompiers, les week-ends, les jours fériés. Ils sont pas forcément d'ailleurs mieux payés.
Mais heureusement,
c'est quand même plutôt la solidarité et l'image de la France qu'on veut retenir.
Mais heureusement qu'il y a eu ces gestes de solidarité, mais il n'y a pas eu que ça.
Non.
Et il y a eu, par ailleurs, et ça m'a hanté pendant toute cette période, il y a eu cette façon que nous avons tous eu de nous replier sur notre demeure confinée, sur nos villes brusquement décarbonées, et d'oublier le reste du monde, et d'oublier que le reste du monde, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire seulement les damnés du reste du monde, mais ça veut dire aussi Erdogan qui poussait ses pions, ça veut dire Poutine, pardon,
l'Arménie, pour reprendre un conflit,
ça veut dire l'Arménie, ça veut dire en effet Erdogan et
mais la santé avant Kurdes, tout, hein. La santé avant tout.
Oui, et moi je crois.
Entendu pendant un an.
Voilà, la santé avant tout. Oui. Or, je ne crois pas. Je crois que être humain, c'est pas dire la santé avant tout. C'est il y a quelque chose, la santé bien sûr, la vie bien sûr, mais la vie pourquoi faire? La vie ordonnée à quelle valeur? Voilà. Ça, c'est des questions qu'on n'a pas posées pendant cette période.
Vous avez été prudent quand même pendant la période du Covid.
C'est fini.
Vous avez respecté les gestes.
Non, j'ai été bon citoyen, mais j'ai pas été prudent. C'est-à-dire que j'ai passé l'année du Covid à continuer mon travail, parce que je m'y étais engagé, de grand reporter pour un grand journal qui s'appelle Paris Match. J'ai pas arrêté. Olivier Royan, directeur de la rédaction du journal, au début du Covid, m'a dit, alors écoutez, si vous voulez, on arrête. J'ai dit, mais ça va pas. Raison de plus pour continuer, pour aller à Mogadiscio, raison de plus pour retourner en Syrie, raison de plus pour aller aux côtés des Kurdes Peshmerga qui luttent contre Daesh. Donc j'ai pas été prudent. En revanche, j'étais bon citoyen, j'ai pas appelé à la rébellion, j'ai pas été anti-masque, j'ai pas été anti-vaccin.
Merci Bernard-Henri Lévy sur la route des hommes sans nom, éditions Grasset. Merci d'être passé par les GG. Laure Closier nous attend, le débat continue sur RMC, RMC Story. Laure.
Salut les grandes gueules, on va ouvrir la vaccination à tous dans une dizaine de jours, mais il y a toujours beaucoup de réfractaires. Comment on fait? Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il faut les contraindre? Du côté de la manière forte, Emmanuel Le Chypre, il faut les contraindre. Du côté de la manière douce, Laurent Neumann, non, il faut continuer à discuter, aller chercher les gens là où ils sont. On vous attend au 32-16, Neumann Le Chypre, c'est tout de suite.
Sur RMC, RMC Story, entre midi et 3. Nous, on se retrouve lundi, 9h, en direct. Joël Dagosséry, coach de ville. Avocat Charles Consigny, Louis Boyard, étudiant en droit. Et midi moins 20, Clémentine Autain, elle est tête de liste France Insoumise pour les élections régionales à Paris. Bon week-end et rendez-vous lundi.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.